Je suis Solange Siri. Je souhaite créer, par ce podcast « Maman au-delà de l'inceste », une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. Cet épisode est la deuxième partie d'un échange très lumineux que j'ai eu la chance d'avoir avec Sanara. Dans cet épisode, cette deuxième partie, Sanara va nous partager les conséquences du climat incestuel qui lui a été imposé par sa mère, en plus de l'inceste dont elle a été victime. Elle nous parlera aussi de ses plus grosses peurs avant de devenir maman, puis en tant que maman survivante d'inceste. Elle nous parlera aussi du poids de la culpabilité et surtout ce qu'elle a pu mettre en place et ce qu'elle met encore en place aujourd'hui pour y faire face. Et ensemble, nous échangeons aussi sur la nuance fondamentale entre la grande vigilance nécessaire et parfois ignorée malheureusement et l'hypervigilance excessive qui appesantit notre épanouissement en tant que maman. Je te souhaite une très belle écoute. Est-ce que, Sanara, tu avais, avant d'être maman, un idéal ou une idée de la maternité idéale pour toi ?
Non, je n'avais pas d'idéal. Je n'avais pas d'idéal et je n'arrivais pas à me projeter en tant que mère de famille avec un mari, etc. Donc, je n'avais pas d'idéal.
Et est-ce que tu penses que, justement, le fait que tu n'arrivais pas, comme tu dis, à te projeter, ça a un lien avec les traumas que tu as traversés, subis ?
Ah bah oui, complètement. Parce qu'en plus, il y a eu non seulement l'inceste avec mon père, et puis il y a eu ce climat incestuel avec cette maman qui m'a vampirisée. J'ai très vite eu le statut d'adulte. Pour le coup, j'ai été la thérapeute de ma mère très très tôt. J'étais toute petite, elle me confiait absolument tout sur son existence, tout, ses soucis au travail, sa vie sexuelle, ses problèmes avec ses copines, tout. J'étais qu'une toute petite fille, donc je ne savais pas ce qu'était être un enfant. Et du coup, j'ai appris dans la douleur ce qu'était être un adulte, parce que c'est ça tout le paradoxe de la chose, c'est qu'on t'impose ce statut d'adulte avant l'heure. Mais du coup, étant donné que tu n'as pas suivi toutes les étapes qui sont censées t'y conduire, tu ne sais pas non plus ce qu'est être un adulte. Donc, ça a été très, très compliqué. Je pense que je suis quand même contente de ne pas avoir eu mon petit loulou trop tôt, parce que j'avais déjà mieux ancré ce qu'était être un adulte avec les responsabilités, mais j'allais dire les vraies responsabilités, pas celles qu'on t'impose, qu'on te met sur tes épaules et dont on ne te laisse même pas le choix, tu vois, de choisir ce que tu en feras, quoi. Donc ça a été important.
Qu'est-ce que tu appelles, toi, les vraies responsabilités, alors ?
Eh bien, moi-même, ma propre responsabilité de prendre soin de moi, de penser à me nourrir, à payer mes factures comme il faut, à ne plus être dans le don pour l'autre, mais vraiment à être avec moi. C'est-à-dire que... dans mes relations amoureuses, je suis restée 5 ans avec mon premier amour. J'ai été une grande dépendante affective. Il était mon monde, il était ma vie. Et le jour où lui et moi, on s'est séparés, ça a été une horreur dans mon existence. Et ensuite, j'ai eu une relation très toxique avec quelqu'un d'autre. Mais à l'issue de cette autre relation, je suis restée seule un certain temps. J'ai vécu seule dans mon appartement, j'avais mon travail. Donc là, je n'avais plus d'autre choix que d'apprendre à vivre avec moi-même parce que j'étais factuellement seule avec moi-même au quotidien. Et donc là, il m'a fallu apprendre à m'occuper de moi. Là où avant, finalement, je laissais cette chose-là à cet autre, mais parce que moi, je ne savais pas m'occuper de moi, tu vois. Donc c'est ça, finalement, les responsabilités, c'est simplement s'occuper de soi, j'allais dire comme il se doit. Il m'a fallu encore beaucoup cheminer pour arriver à ce comme il se doit, mais déjà un minimum, quoi.
Ouais. Donc tu avais du mal à te projeter. Est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas une même enfant, une idée, tu te disais pas je vais avoir une famille, comment est-ce que tu voyais les choses?
Non, et d'ailleurs je voyais trop rien. Je n'arrivais pas à me projeter. C'est-à-dire que le demain n'existait pas. C'est tout ce paradoxe de aujourd'hui existe, mais je suis complètement à côté de mes pompes, donc au final je ne le vis pas vraiment cet instant présent. Mais je suis dans l'incapacité totale de voir demain et je suis dans l'incapacité totale de regarder en arrière parce que je suis sous le joug d'une amnésie. Donc c'est terrifiant. Donc non, vraiment, je ne pouvais pas me projeter. Et ça a été une construction même mentale au départ qui s'est fait vitesse rapide au moment de l'annonce de cette grossesse. Ça a été vertigineux à en faire des crises d'angoisse, quoi. Parce que comment on s'organise, comment on fait qu'est-ce qui se passe? Ça a été très, très dur. Ouais.
Alors, quelles ont été, ou quelles sont encore d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a sans doute encore, les plus grosses difficultés dans ta vie de maman? Les plus grandes peurs peut-être aussi?
Alors mes plus grandes peurs au cours de ma grossesse, alors mis à part le fait qu'il n'arrive pas à terme et que je le perde, ça c'était terrible. Moi, j'avais peur d'être une très mauvaise mère. J'avais peur de pas être à l'écoute, de pas faire comme il faut. J'avais peur que mon bébé ne l'aime pas. J'avais tout un tas de peurs comme ça, la plupart complètement folles, quoi. Mais c'était ma réalité sur l'instant. Et puis, à son arrivée, les peurs ont évolué. Donc, j'ai eu de grandes difficultés pour tout ce qui était le rapport à son corps, à lui. Donc, c'est un petit garçon. Les petits garçons, il faut les décaloter. Pour moi, c'était juste pas possible d'avoir ce geste sur mon bébé. Évidemment, en réalité, il n'y a rien de mal. Mais moi, je ne pouvais pas. C'était pas possible de faire ce geste sur lui. Et du coup, ça a créé des soucis parce que, tu sais, tous les mois, tu emmènes ton bébé chez le pédiatre qui le pèse, vérifie que tout va bien, etc. Et puis, lors d'une des visites, elle me dit « Mais vous décalotez bien votre bébé parce que là, ça avait commencé, si tu veux, à se consolider, quoi. » Et donc, moi, je suis très franche, je lui dis ben non, mais ça me dérange, j'y arrive pas. Et là, elle me passe un savon en m'expliquant que c'est très important, un, pour l'hygiène. Alors, je baignais mon bébé tous les jours, j'ai jamais eu de problème d'ailleurs pour lui nettoyer les fesses, et c'était vraiment par rapport à son pénis, quoi. Et donc, elle me passe un savon en m'expliquant que c'est très important, un, pour l'hygiène, et deux, que si ça se soude trop, plus tard, il sera obligé de se faire opérer. Donc, dans tous les cas, c'est de futurs problèmes en perspective. Donc là, je sors de là en me disant « Ok, je vais le faire », sauf que c'était impossible. J'en ai eu des crises de larmes juste de faire ce geste, et je ne comprenais pas pourquoi ça me mettait dans cet état. C'était atroce. Vraiment un vrai sujet, ce rapport à cette partie de son corps, en tout cas. Mon mari travaillait en horaire décalé, n'était jamais là pour l'horaire du bain, donc c'était une catastrophe, parce qu'on pouvait se dire, bon, au pire, lui aurait pu faire ça, ouais. Et là, je ne pouvais pas. Donc, je ne le faisais pas, et puis à un moment, ça se ressoudait un peu plus, et là, c'est mon mari qui a dû le faire, quoi, tirer un peu dessus. Mon fils, sur le moment, en plus, je pleurais parce que je me disais, c'est de ma faute, là, il va avoir mal, mais c'est de ma faute, je ne fais pas ce qu'il faut. C'était trop dur, quoi. Et bon, le petit n'a pas eu mal, bizarrement, il a eu aucune réaction. Et puis ensuite, mon mari, au cours de la journée, même si lui n'était pas là au moment du bain, et ben, par exemple, au cours d'un change, ben, lui le faisait. Donc moi, ça m'a vraiment libéré un peu plus l'esprit, mais je continue à culpabiliser. J'ai appris très vite à mon fils à le faire, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il a su attraper, tu sais, les plus petits objets, à réussir à attraper, eh ben, je lui ai fait attraper son pénis avec sa main et je lui ai montré, en mettant les mots, on décalote, Et du coup, tout petit, il a appris à le faire tout seul. Et alors ça, ça m'a libéré un poids, on n'a pas idée, quoi. Ensuite, tout ce qui a été peur de ne pas être une bonne mère, etc., bah ça, c'est pareil, ça s'est assez vite évaporé parce que il y a tellement d'amour, finalement, dans cette relation avec cet autre être humain. C'est tellement, tellement plus fluide que tout ce qu'on peut s'imaginer, tu vois, dans notre tête avant, la réalité tangible, qui est finalement beaucoup plus fluide. Et les enfants sont forts pour ça aussi. Ils ont cette manière même inconsciente de nous guider, d'être... d'avoir, tu vois, le sourire au moment où il faut, genre, t'inquiète maman, c'est pas grave, ça va aller, tu vois. Au moment de ma sortie d'amnésie, il m'est arrivé un truc assez horrible. J'avais passé la journée à pleurer. Et puis le soir, il a fallu aller chercher mon petit à l'école. Donc, ce que j'ai fait pendant cette période, c'est que je mettais des réveils. Et donc, à 15h30, j'avais un premier réveil qui me prévenait qu'à 16h, il y aura un prochain réveil pour aller prendre ma douche. Donc, à 16h, j'allais me laver. Je me maquillais, hein, parce que j'avais la tête de toute boursouflée d'avoir pleuré toute la journée. Et j'allais le chercher. Ensuite, arrivé à la maison, il fallait le laver. Et puis là, j'avais tout donné. J'avais tout donné, j'avais mis toute mon énergie, j'avais réussi à prendre une douche, je m'étais maquillée, j'avais été chercher à l'école, je l'avais lavé, je n'avais plus aucune pêche. Et là, j'ai complètement dissocié. Et je me suis retrouvée dans la cuisine, je ne savais plus allumer une plaque de cuisson. Je ne savais plus. Je me suis retrouvée dans la cuisine, je ne savais plus faire à manger, je ne savais plus. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien qu'il mange, mon fils. Et là, tout à coup, j'ai vu ce petit bonhomme du haut de ses 4 ans et demi qui arrive à côté de moi, qui me regarde comme ça, qui me dit, mais tu sais, maman, c'est pas grave, on va commander des pizzas. Tu dis, non, mais là, c'est incroyable quand même. Et là, ce soir-là, on a commandé des pizzas. J'ai dit, mais t'as raison, mon amour, on va commander des pizzas, quoi. C'est pas grave. Et tu vois? Ouais, c'est fou, hein.
Ouais. Moi, je suis convaincue aussi, tu me disais tout à l'heure, nous sommes nos propres guérisseurs et thérapeutes, et je trouve aussi, depuis que je suis maman, à quel point mes enfants sont mes thérapeutes, enfin, c'est mes guides, ce sont mes plus grands guides. Parce qu'encore une fois, je pense que je m'autorise, et mon parcours, c'est ça que je trouve lumineux dans mon parcours quand même si c'est atroce ce que nous avons traversé, toi et moi, m'amène à vraiment voir tout ce que la vie peut m'apporter et à voir à quel point mes enfants peuvent m'apporter, me faire grandir. En les aidant à grandir, je grandis moi-même et eux, ils m'aident à grandir. Vraiment, je trouve ça fabuleux. Nos enfants sont vraiment des petits Bouddhas en puissance.
Ah non, mais complètement. Alors là, je suis 100% d'accord avec toi. Mais parfois, ils te sortent des choses. Même toi, ça te fait réfléchir. Genre, tu vois, tu fais de la philosophie, là. Tu te dis, mais oui, mais c'est vrai, mais pourquoi? Et puis aussi parce qu'ils n'ont pas encore autant de barrières mentales que nous, on a, avec beaucoup de croyances limitantes, etc. Et nous tous, hein, nous en avons. Et c'est-à-dire qu'eux arrivent avec cette espèce de candeur et de naïveté, mais lumineuse, quoi, et ils te disent des choses, et là, tu te remets en question, ce que tu dis, mais oui, mais c'est vrai, quoi, c'est nous qui nous... On se prend tellement la tête, alors que finalement, c'est bah, encore une fois, c'est dans les choses les plus simples qu'il se trouve tout ce qui est efficace, quoi.
C'est ça. Et c'est aussi de pouvoir lâcher prise, hein, aussi, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais comme tu disais tout à l'heure, par rapport à quand tu disais, mon fils a fini par me faire comprendre qu'il avait confiance, enfin, qu'il pouvait avoir confiance en lui, que toi, tu avais confiance en lui, que tu pouvais lui avoir confiance en lui, et maintenant, de plus en plus. Il y a je trouve magnifique de voir mes enfants à moi aussi, quand elles me montrent, d'une certaine manière très simple aussi, qu'elles ont récupéré, elles arrivent à piocher dans ce que je fais, moi, pour être dans la paix, d'être bien, et qu'elles me disent tout bêtement, mais t'as qu'à faire, par exemple, moi je fais du tapotement de l'EFT, et dès que je commence à piquer une crise, ou à être trop frustrée, ou à être énervée, mais maman respire, maman tapote, et je trouve ça fabuleux. Ça nous renvoie notre propre richesse.
C'est génial l'exemple que tu viens de donner. Hier soir, je me cogne, j'ai mal. Et puis, je dis à mon fils, bon, allez, on va prendre la douche. Puis vraiment, j'avais mal. Donc, tu sais, je me frottais un peu comme ça. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que t'as ? Je lui dis, bah, j'ai mal. Et là, il me regarde comme ça. Il me dit, eh ben, arrête d'appuyer dessus. Bah, Ah non mais j'ai éclaté de rire, j'ai dit non mais ta phrase elle est géniale parce qu'elle est tellement vraie dans tous les sens du terme. Bah oui, ça m'a hâte d'appuyer dessus, quoi, tu sais. Et c'est marrant parce que c'est un truc que moi je lui dis, c'est-à-dire que on est toujours très bon conseiller pour les autres, hein, toujours, mais alors pour soi c'est une toute autre histoire, hein, okay.
Ouais, mais c'est vrai que les enfants aussi ils ont aussi peut-être pas tout le temps non plus, un peu plus de confiance que nous, parce qu'ils n'ont pas encore eu tout, enfin quand tout va bien sûr, des fois c'est pas forcément le cas et ça peut alerter effectivement, mais ils ont cette confiance et ce lâcher prise que nous on a plus de mal et qu'il faut réapprendre à acquérir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est des grands maîtres aussi spirituels pour nous.
Non mais complètement, puis tout ce qui touche au lâcher prise c'est hyper difficile pour les êtres humains qui ont été traumatisés. Déjà si tu lâches prise, le système, il panique total, quoi. Ah ben non, ça tient plus. Enfin, déjà, c'est pas pour rien si on est dans l'hyper-contrôle, etc. C'est un mode survie, en fin de compte. Et lâcher ça, ben, pour le système, c'est mourir. Tu te rends compte le travail de fou qu'il y a à faire. Pareil, tu sais, parfois, tu vas travailler sur toi, sur quelque chose, et puis la vie te reconfronte à cet élément. Ben, puis comme ça, c'est bien, parce que tu vois si oui ou non, tu as bien travaillé dessus. Et puis, parfois, eh ben, tu repars dans un vieux travers. Hein. C'est comme ça, ça arrive. Et là, tu culpabilises, tu dis, ben voilà, tout ce travail anéanti, tout ça pour rien. Eh ben non. Enfin, si je le dis, c'est parce que je le dis déjà à moi, et je vous le dis à vous, c'est important qu'on l'entende tous. Eh ben ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que, ben, parfois, il pourrait nous arriver de retomber dans certains vieux travers que le travail n'a pas été fait. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, ça remet pas en cause tout ce qui a été fait jusqu'ici. C'est très important.
Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je pense qu'effectivement, ce n'est pas pour rien si la vie nous renvoie à des situations qui sont similaires. On pourrait parler de schémas répétitifs ou voilà, toujours les mêmes galères. Parce que je pense que nous évoluons. Et c'est aussi, comme tu disais, pour vérifier où on en est. Mais aussi, on a de nouvelles capacités. Donc, on peut regarder les choses avec un autre point de vue. Et donc, on va aller creuser ou enlever une nouvelle couche de l'oignon. On parle souvent de l'oignon en développement personnel, spirituel. Et donc forcément, voilà, on peut avoir l'impression que oh, tout ça pour ça, j'ai pas avancé en fait, j'en suis encore qu'à là. Sauf que non, c'est parce que c'est de plus en plus profond, on a les capacités, on les voit pas forcément le moment où on a le nez dans le caca, mais on a les capacités pour aller dans ce profond-là. Et donc, c'était pas pour rien, au contraire, on a bien
changé. Complètement.
Ouais. C'est vrai que sur le moment, quand t'as la galère qui revient, il y a toujours cette voix de notre bourreau intérieur, comme tu l'appelles, qui vient de te dire, ah bah non, alors okay, à quoi ça servit tout ça. Tu as parlé d'hypervigilance en tant que maman et que ça a évolué. La question de la confiance à l'extérieur par rapport à ton enfant, mais aussi par rapport à toi, comment est-ce que tu la vis aujourd'hui?
Je reste très vigilante. Mais d'ailleurs, j'invite tous les êtres humains à être hyper vigilants par rapport à leurs enfants. Enfin, je veux dire, il faut quand même atterrir. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Sans être dans l'hyper-vigilance excessive comme ça, tu vois, il faut quand même rester vigilant. Donc, je garde cette vigilance, je fais attention, je ne confie pas mon enfant à n'importe qui. Pareil, on est séparés avec son papa. Donc, quand mon fils est chez son père, eh bien, pareil, j'aime bien savoir ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont fait, qu'il y avait. C'est vrai que j'aime bien. Ça me permet quand même de garder une certaine connaissance de l'environnement dans lequel évolue mon petit, quoi. Et ça, c'est quand même super important. Ah bah ouais, c'est vraiment important. Tu vois, parfois, je discute avec des copines qui ont tendance un peu à confier leurs enfants. À chaque fois, je leur dis, mais faites attention. Elle est où ta fille aujourd'hui? Ah bah là, elle est chez une copine. Mais tu connais les parents? Oui, on discute de temps en temps, vite fait, comme ça, devant l'école. Elle est très sympa, la mère. Non mais attends, non, tu... On ne sait pas ce qui se passe dans une maison lorsque la porte et les volets sont clos. Donc, il faut quand même rester vigilant. Et du coup, je ne sais plus c'était quoi ta question. Je sais, ça me tient tellement à cœur.
Oui, oui. Je vais te la reposer. Et on est en plein dedans. De toute façon, tu réponds parfaitement. Enfin, parfaitement. C'est très clair ce que tu partages. Et je voulais rebondir aussi parce qu'effectivement, c'est aussi le cœur de ce projet du Maman au-delà de l'inceste. Hein, ce podcast et tout ce que j'ai envie de créer autour, c'est de prendre conscience aussi de notre potentiel dans notre blessure, dans notre trauma à nous, maman qui a survécu à l'inceste, on a ce regard que d'autres ne veulent même pas porter. Ils n'ont même pas conscience que c'est important. C'est vrai que je crois qu'il y a plein de choses à déconstruire dans la société dans laquelle on vit, il y a plein de choses à faire évoluer. Mais il y a un truc qui évolue mal, je pense, c'est vraiment cette... nous, on est peut-être hyper vigilantes, mais d'autres sont trop, pas laxistes, mais n'ont pas conscience des dangers dans lesquels ils peuvent mettre leur enfant. Et notamment, effectivement, comme tu dis, derrière la porte de chez quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe. Mais évidemment, moi, je suis dans ce conflit intérieur aussi parce que j'ai 3 filles. J'en ai mon aînée, heureusement, elle est, enfin, heureusement entre guillemets, elle est introvertie. Et, bon, voilà, elle est très heureuse, mais elle est introvertie, donc elle a pas, elle va jamais chez qui que ce soit. Peut-être qu'elle a pris de ce que... Voilà, je suis convaincue qu'elle a pris de mon histoire. La deuxième, par contre, elle a des copains, des copines dans tous les sens. Elle est invitée tout le temps. Elle a été invitée à dormir. Moi, j'ai dit non pour l'instant.
Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Hein.
Mais c'est compliqué de pouvoir bien jongler entre... Ok, je vais laisser mes enfants déployer leurs ailes aussi, qu'ils soient des enfants normaux. Alors, je mets les doigts là pour faire les guillemets, parce que, qu'ils soient épanouis et qu'ils restent dans leur épanouissement. Parce que ma deuxième, elle est vraiment, elle a des amis, elle est extravertie, elle est un petit peu introvertie aussi, mais elle dans la juste dose. Mais à force, effectivement, d'être sur leur dos, ça peut couper ça, tout en ayant cette conscience qu'effectivement, il peut se passer toutes sortes de choses. Et même si on a confiance en les parents à qui on confie notre enfant, on ne sait pas qui passe dans la maison.
C'est ça.
Il y a des invités, il y a des gens de passage.
C'est ça.
C'est très compliqué.
Tu vois, mon fils, c'est pareil. Il est très solaire, il est hyper sociable. Alors, moi, qui ne le suis pas vraiment, pour le coup, je me balade avec lui, on croise des gens, on croise mes copains. Et après, du coup, faut discuter avec les parents. Je dis ça comme si c'était une grosse corvée. Mais je l'avoue, c'en est une un peu pour moi. Et du coup... lui est très solaire, il est invité chez des copains. Je fais hyper attention chez qui je l'emmène. Lui aussi, on lui a déjà proposé des soirées pyjama. J'ai refusé. Non, tu es trop petit. Désolé, mais tant que tu ne fais pas 1m90, non, je rigole. Tu n'iras pas, tu ne bouges pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais franchement, soirée pyjama, là, faire dormir, c'est compliqué chez des copains, etc. Ça, c'est non. Par contre, passer des après-midi pour jouer chez des amis, oui. Et tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que moi, par contre, j'ai déjà accueilli des copains à lui pour dormir à la maison. Et en même temps, je me dis, ouais, les parents m'ont fait confiance sans vraiment... on se connaissait, mais finalement, pas tant que ça. Bon, ça s'est très bien passé pour eux, tant mieux, mais il faut être très vigilant. On ne sait pas, voilà.
Ouais. Et puis, leur apporter aussi à nos enfants, bien sûr, on ne peut pas faire porter sur leurs petites épaules d'enfants la responsabilité de pouvoir se défendre ou non contre un adulte, parce que ça, c'est juste pas possible.
Non.
Mais au moins d'avoir la conscience, comme on l'a partagé ensemble déjà, de savoir quelles sont les limites, et surtout, même si malheureusement des choses avaient été faites à l'encontre de leur intimité, d'être s'autoriser à pouvoir en parler à nous, quoi, qu'ils aient suffisamment confiance pour en parler à nous ou à un autre adulte qui saura les entendre. Donc ça, c'est tellement important aussi. Et tous les parents n'ont pas cette initiative-là aussi parce que c'est gênant pour eux peut-être d'en parler ou tout simplement parce qu'ils n'y pensent pas. Donc, on parlait de la confiance et cette vigilance et peut-être même hyper-vigilance. Donc, tu disais, c'est important et je reste hyper-vigilante. C'est là où le terme, il peut être quand même... C'est important, les mots quand même. Pour moi, en tout cas, c'est important parce que quand je parle d'hyper-vigilance... C'est pas une pathologie, mais presque. Parce que ça, pour moi, c'est une des conséquences, une des séquelles de tout ça. Et qui peut encore me porter des défauts sur ma façon d'être bien avec mes enfants et de leur inculquer la liberté, de se sentir bien dans leur corps, dans leur vie, etc., avec les relations qu'elles ont. Donc, t'as bien recadré entre hyper-vigilance et être très vigilant. Mais néanmoins, donc, on parlait de cette confiance... Comment tu as fait évoluer cette confiance? Est-ce que tu as des pistes à partager aux mamans qui pourraient nous écouter pour te sentir un peu plus dans la confiance?
Déjà, il y a eu cette différence entre questionner mon fils comme si j'étais l'inspecteur Colombo, quoi, et juste lui laisser la porte ouverte pour si lui, il a envie d'y déposer quelque chose, il le peut. Et finalement, ça a été tout le... Enfin, moi, je l'ai vécu comme un paradoxe au départ, mais en réalité, ça n'en est pas un. C'est que de faire ça, eh bien, lui se confie beaucoup plus. Lui va raconter ce qui lui est arrivé, etc. Et aussi, surtout, d'être toujours dans l'accueil sans réaction exacerbée. C'est-à-dire que si ton enfant arrive et te confie quelque chose qui ne te plaît pas beaucoup, tu vois, eh bien, surtout, ne pas s'énerver, ou parce que là, tu risques de le braquer. Et après, c'est terminé, il n'osera plus jamais venir te raconter les choses qui sortent, entre guillemets, du cadre. Parce que ça risque de mettre maman en colère, ou papa en colère d'ailleurs, peu importe. Quoi. Donc vraiment, c'est assez fou, parce que parfois, ils me parlent, ils me racontent des trucs, et puis ça commence à s'allumer à l'intérieur de moi, soit des choses qui vont m'énerver ou quoi, et dans, à l'intérieur de moi, j'ai une espèce de conversation intérieure en mode « Tu t'énerves pas, Sana, tu respires, t'attends un peu, parce que j'ai trop peur ensuite de bloquer et qu'il n'ose plus se confier à moi. » Après, mon petit est encore petit, justement. Il a que 6 ans. Je ne sais, ça va évoluer avec le temps. Un jour, il sera ado. Ben, quand il sera ado, peut-être qu'il me rejettera en bloc, qu'il ne voudra plus rien me confier. Peut-être qu'au contraire, ben, grâce à cette relation que nous aurons instaurée avec le temps, ben, il sera encore dans la confidence. Mais quelque part, plus tard, ça lui appartient. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que là, il lui arrive quelque chose et qu'il n'ose pas m'en parler. Je n'arrête pas de lui dire, quoi qu'il arrive, tu peux tout raconter à maman. Maman, elle ne te juge pas et c'est OK, mais tu peux tout me dire hein, si tu en as envie. C'est le « si tu en as envie » qu'il m'a fallu apprendre à rajouter. Et puis mon mari qui me disait « mais lâche-le, quoi. Mais fous-lui la paix. » Le nombre de fois, il m'a sorti cette phrase.
Oui, et je suis d'accord avec toi. Le « si tu en as envie », c'est important. Et là, je suis aussi en train de travailler énormément, moi aussi, sur cette... depuis toujours, mais encore plus, parce que, comme tu dis, ça va évoluer avec le temps. Et je le vois, parce que j'ai trois enfants, trois tranches d'âge différentes. Donc, je vois maintenant, avec plus de recul, à quel point, effectivement, tu ne peux pas te dire, ça y est, je suis arrivée, là, c'est bon, on a tout.
Ça n'arrive pas, on n'est jamais arrivé, c'est mort.
Quand on aura 90 ans, on aura encore des choses à travailler.
Oui.
Mais par rapport à la... Tu peux tout me dire si tu veux. Moi, aujourd'hui, j'en suis quand même à me dire oui, mais sur ce domaine-là particulier, parce que j'ai traversé ça et que j'ai traversé ça dans la solitude et longtemps, parce que je n'ai jamais vraiment eu d'amnésie traumatique opaque. C'est important. Je pense que le trauma en tant que tel, c'est énorme, mais c'est surtout la solitude de vivre avec ça qui est encore plus délétère et qui a un impact néfaste sur notre développement. Donc, pour moi, la question de « j'ai été agressée », si mon enfant avait eu une atteinte à sa personne, par contre, ce n'est pas un choix. Enfin, j'essaye d'être cool pour ne pas leur faire peur, mais j'essaye de multiplier les outils, les biais pour leur faire comprendre que par contre, là, sur ce sujet-là, il faut absolument qu'elles parlent à quelqu'un. Si ce n'est pas maman parce qu'elles ont peur de blesser maman ou parce qu'elles ont peur de mal être reçues, je suis comme toi, je travaille énormément mon ancrage, ma gestion des émotions pour pas déborder dès qu'il y a quelque chose dont elle me parle, même n'importe quoi, hein, pour pas qu'elle sente que les portes se ferment. Néanmoins, je suis consciente que des fois, elles auraient peut-être peur, même inconsciemment, de me dire des choses. Donc, je leur dis, tu vas voir un autre adulte, papa, si c'est pas papa, c'est mamie, si c'est pas mamie. Et puis aussi, par contre, tu restes jamais avec ça, jamais toute seule. Jamais. Si tu as une agression quelle qu'elle soit, même un enfant, un copain de ta classe, tu restes pas toute seule avec quelque chose d'aussi grave. Donc pour moi, c'est pas une option. Il faut en parler à quelqu'un en tout cas. Et je leur explique aussi à quel point c'est important. Effectivement, les adultes, ils sont souvent très très stressés, très pressés. Ils ont pas le temps d'écouter. Surtout les enfants, ils disent oh, qu'est-ce que tu me racontes. Et tu auras peut-être un premier adulte qui va te dire, bon, bah, qui ne va pas avoir la réponse qu'il faudra, qui ne saura pas t'écouter. C'est pas grave, tu persistes, tu continues, tu vas en trouver un autre. Il y aura toujours un adulte qui sera là pour toi, pour t'écouter, mais ne reste pas seul avec ça. Pour moi, c'est important d'avoir.
Ouais, puis tu sais, instaurer dans la journée, enfin, moi, ça s'est fait de manière totalement naturelle avec le petit, mais il y a toujours un moment, alors je parle de la semaine classique où tout le monde travaille et lui va à l'école, le soir, il y a toujours ce petit moment. Avant le coucher, alors pas juste quand on est dans la chambre, un peu plus tôt, mais tu vois, dans cet entre-deux où on va bientôt aller se laver les dents et faire pipi, où ben, il me raconte sa vie. J'allais dire ses amis, ses amours et ses emmerdes, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir une espèce de petit rituel comme ça, un petit moment où, en tout cas, tu es entièrement disponible et l'enfant le sait et qu'il sait que quoi qu'il arrive, à ce moment de la journée, il aura un temps pour te parler et se confier à toi. Mais oui, c'est hyper important de parler. Mais tu sais, ce sentiment de solitude absolument gargantuesque, même lorsque tu es sous joug d'une amnésie, tu le vis, tu le ressens. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous toutes et nous tous survivants de l'inceste et des violences sexuelles, et des violences tout court d'ailleurs, issues de l'enfance, on est porteurs de cette solitude incroyable, de ce gouffre sans fin qui à certaines étapes de nos vies, a été destructeur, difficile, qu'on a essayé de combler par tout un tas de choses et qui, après, avec l'expérience, devient un allié salutaire, quoi.
Oui, c'est aussi un des enjeux importants pour moi dans ce podcast, c'est de pouvoir aider les mamans à sortir de leur solitude, ouais. Aussi bien en se retrouvant dans ce qui peut être dit, partagé, et puis aussi de trouver des pistes. Et là, cette ressource du rituel que tu nous as partagé plusieurs fois, pour moi aussi, elle a été fondamentale dans mon développement. Tout en sachant que, bien sûr, il a fallu cette liberté aussi de pouvoir se détacher de certains rituels parfois ou de les laisser évoluer. Mais effectivement,
oui, ça évolue.
On est des êtres de rituels.
Complètement. Et puis, tu sais, ça, c'est important ce que tu viens de dire. C'est hyper important. Et je pense que de temps en temps, ça fait du bien de l'entendre. C'est que la vie est faite de mouvements, que jamais rien n'est figé, mais jamais, jamais, jamais. Et que tu peux totalement instaurer des choses à un instant T qui seront caduques à l'instant X. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Ça se réinvente à chaque fois, à chaque nouvelle étape. Et ça vaut pour nous avec nous-mêmes, nous avec les autres, et nous avec nos enfants, n'en parlons même pas. Hein. Tu n'as pas les mêmes rituels avec ton petit garçon de 6 ans qu'avec ton fils de 15 ans et demi. Sinon, il y a un problème.
Non, mais c'est vrai que c'est, et même pour les enfants, c'est tellement, enfin, c'est pour nous, on est des êtres de rituel parce que ça nous rassure, et puis ça les rassure aussi. C'est tellement important de savoir, comme tu disais tout à l'heure, je sais qu'à tel moment je vais pouvoir me déposer avec maman, et c'est pour ça qu'ils aiment tant les histoires du soir, ils aiment tant d'être ça les cadre et ça les rassure, et c'est tellement fondamental.
Et puis pour nous, en tant qu'adultes, même les rituels, c'est important, même pour le cerveau. Hein. Le cerveau, il apprend comme ça, quoi. Hein. Et après, du coup, ça pose un espèce de cadre qui est rassurant. Et ça, surtout lorsqu'on a vécu totalement dissocié, hyper vigilant, tout le temps stressé, ben, ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
Merci pour ton écoute et pour ta confiance. Je suis encore une fois très curieuse de savoir ce que cet épisode t'a inspiré. Est-ce que tu t'es reconnue dans les partages et les réflexions de Sanara, dans nos échanges? Je serais vraiment très heureuse de lire tes témoignages, tes réflexions ou encore de répondre à tes questions si tu en as. N'hésite donc pas à m'écrire sur mon compte Instagram dont tu trouveras les références en description sous l'épisode. Dans le troisième épisode, ou plutôt dans la troisième partie de cet échange avec Sanara, au prochain épisode, nous allons évoquer la question de la confiance dans le couple lorsque l'on a vécu le trauma de l'inceste. Et puis, nous parlerons aussi de ce concept de résilience et de la transformation des traumas. À très bientôt pour la suite du podcast Maman au-delà de l'inceste.